Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons passer les deux prochaines heures ensemble. On va parler de course d'accélération en deuxième heure d'émission. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais lundi, le 3 septembre, il y a une grande manif qui se prépare. Vous savez que au fil des ans, il y a eu beaucoup de plaintes de bruit, trop de bruit, trop de pollution. Vous savez ces fameuses courses, là, genre Saner, Saint-Eustache, tout ça. Bon, là, il semble que ça soit en péril. Et on va se poser la question, est-ce que le fait peut-être que ça soit la fin des courses d'accélération, ça va faire en sorte que il y a beaucoup de jeunes, hein, vous savez, qui participent à ces courses-là. Est-ce que ça va augmenter les risques de courses de rue ou dans les rangs de campagne en plein milieu de la nuit, tu sais, des courses d'auto, de voitures comme ça? On va en parler avec des gens qui sont passionnés de courses d'accélération. Ils vont nous dire pourquoi pour eux c'est une passion. Et quelqu'un de très passionné, je suis très contente parce que je lui ai parlé ce matin. Elle va plutôt bien. Vu les circonstances, c'est mon amie, la comédienne Joanne Fontaine, qu'on recevra tout à l'heure. Joanne qui va venir nous donner des nouvelles de sa santé, qui va venir nous dire comment elle se sent. Vous savez que Joanne, il y a quelques jours, a fait une annonce sur sa page Facebook pour nous dire que mais finalement, la mort approchait. Ça fait plus de 8 ans qu'elle combat un cancer qui est devenu généralisé. Et pour ceux qui la suivent sur sa page Facebook ou qui suivent bien sûr tout ce qu'elle fait, parce qu'elle a pendant ces 8 années continué d'être très active. Elle est devenue quelqu'un de très inspirant. Vous avez été nombreux et nombreuses d'ailleurs à me demander de ses nouvelles. Donc, Joanne est en route. Elle sera là avec nous tout à l'heure vers 11h30. Mais je voulais justement parler aussi de santé, parce que la santé est au cœur des enjeux électoraux, vous l'avez vu. On a beaucoup parlé de soins. Nous, on a fait déjà un débat la semaine dernière sur ce qu'il faudrait peut-être suggérer comme véritable besoin en matière de santé avec nos invités. Mais là, ensuite, le Parti québécois a proposé de remettre de l'argent dans les soins en particulier. On parle de près d'un demi-milliard de dollars en soins, ce qui est une bonne idée finalement. La CAQ a renchéri en disant, ben nous, ce qu'on veut faire, c'est créer des maisons des aînés. Et là, on est dans un grand projet d'immobilisation. On va construire une trentaine de maisons pour des aînés parce qu'on veut éventuellement remplacer ces fameux mouroirs, les CHSLD. Et c'est vrai que les CHSLD, tout le monde, c'est comme la frayeur pour tout le monde, hein? Je sais pas vous, mais on se dit, oh mon Dieu, j'espère qu'on finira pas là. On a vu toutes sortes d'histoires d'horreur. Encore hier, regardez cette histoire à Saguenay. Une dame, Alzheimer, on doit se dire, mon Dieu, elle s'en rend même pas compte, là. Incontinente. Sa famille va la voir, se rendre compte qu'elle n'a pas eu de bain, visiblement, depuis une semaine. Et ils se font dire, ben là, votre mère, elle n'aura 1 ou 2 semaines. 1 bain aux 2 semaines. Voyons donc. Il fait 32 degrés en moyenne cet été, mais nonobstant ça, c'est pas parce que t'as plus de mémoire, que t'as plus besoin d'être lavé. C'est quoi ce comportement envers les aînés? Là, vous allez me dire, mais oui, mais il manque de personnel. Où est-ce qu'ils vont les prendre? C'est vrai, c'est rendu qu'il y a des endroits, il paraît que c'est pas vrai que la direction a fait ça, mais il y a une histoire d'un endroit, là, où on aurait embarré les préposés aux bénéficiaires pour pas qu'ils sortent, pour les forcer à travailler. Tu dis, ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? Lise Ravary est avec nous. Est-ce que tu te dis qu'est-ce que c'est ça, toi aussi, Lise?
Oh, pas régulièrement.
Lise Ravary, chroniqueuse au Journal de Montréal et à De Gazette. Pierre Blain est président directeur général pour les usagers de la santé du Québec. Bonjour,
bonjour.
Pierre. Ça fait longtemps qu'on se dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça?
J'en entends tous les jours. Et c'est vrai.
C'est vrai que est-ce que, bon, l'histoire d'embarrer quelqu'un, ouais, d'un préposé bénéficiaire, est-ce que c'est parce que ça a été démenti par la direction? Je pense que c'était à Laval, c'était où ça?
C'était à Laval, oui.
C'est ça?
C'était à Laval. Démenti par la direction, c'est possible, mais regardez, on fait la même chose avec les infirmières qu'on oblige aussi à garder. Dans ce cas-ci,
non, mais
on a
barré la porte puis forcer quelqu'un à rester.
Ben, barrer la porte ou dire à quelqu'un, vous choisissez entre vous trois, qui c'est qui reste, ben, c'est, ouais, la même chose.
Comment vous voyez ça? Parce que la question qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'est de quoi nos aînés ont-ils vraiment besoin? A-t-on véritablement besoin d'un grand programme d'immobilisation? On veut mettre, on sait que ça pourrait coûter, là, on parle, la CAQ parle de ce concept de maison des aînés. On veut investir 1 milliard dans un premier mandat pour construire une trentaine de ces établissements nouveaux genres. On ne sait pas trop ça serait quoi à l'intérieur, mais visiblement, ça coûte cher parce qu'on évalue que ce serait 33 millions par maison des aînés. Là, ça commence à être, ça commence 30 à être
milliards en bout de ligne.
Oui, là, un premier milliard. Est-ce que c'est ça dont on a besoin, Lise Ravary, d'après toi?
Ben, je pense qu'en campagne électorale, c'est une belle chose à annoncer. On a vu les images. Ça fait quasiment rêver. T'as quasiment envie d'aller t'inscrire tout de suite, là, tu sais. Mais je pense que comme tel, c'est improvisé, cette idée-là, j'ai l'impression, en tout cas. Parce que, d'abord, les CHSLD, il y a une chose qu'on oublie.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, CHSLD? Centre hospitalier.
Mm-hmm.
Ce sont des hôpitaux. Ce ne sont pas des condos pour personnes âgées.
Mm-hmm.
Ce ne sont pas des résidences autonomes, semi-autonomes. Mm-hmm. Ce sont des lieux de soins. Et on essaie de faire passer pour à peu près comme... Je ne sais pas si c'est parce qu'on veut leur donner un petit côté hop la vie ou quoi, mais je pense qu'on oublie la mission première qui est de donner des soins.
Mm-hmm.
La question des bains, ça fait partie de ça. Ce sont des soins de base. Alors, avant de mettre des sous pour avoir de belles maisons avec très peu de lits à l'intérieur, parce que dans le fond, le problème, il est là. Je dis, qui va aller là? Comment? Ça va marcher comment? Une loterie? Parce que la demande, quand on regarde le vieillissement de la population, va être beaucoup plus grand que la disponibilité des places. Alors, ça va marcher comment? Soins à domicile? Soins? Et aussi arrêter de regarder les personnes âgées comme si c'était un bloc monolithique.
Malade et Alzheimer,
puis qui veulent toute la même affaire.
Mm-hmm.
C'est pas vrai et ça va l'être de moins en moins.
Ouais. Pierre Blain?
Pour moi, on concentre seulement que sur 3 % de la population. Les personnes en CHSLD représentent 3 %. C'est 40 000 personnes.
De la population en général?
En général.
Ouais.
Il y a 1 200 000 personnes âgées au Québec et tout à coup, on les oublie, elles. Et je pense que c'est là où on doit mettre l'emphase.
La personne âgée, 1 200 000, c'est 55 plus ou c'est 65 plus?
On n'est pas capable de le savoir, mais je pense 65 ans et plus à peu près.
Okay.
Donc, c'est ça la vraie réalité des personnes âgées actuellement au Québec, et ça représente...
Ça fait beaucoup de monde, là.
Ben, ça fait beaucoup de monde, mais ça fait 18 % de la population.
Ouais.
Mais d'ici quelques années, ça va monter à 25 % de la population.
Mm-hmm.
Et c'est là où il va falloir prendre d'autres moyens. Un des moyens est effectivement le maintien à domicile. Et jusqu'à présent, sauf peut-être la proposition du Parti québécois, je n'ai pas entendu parler d'autres propositions à ce niveau-là.
Ouais. Ben, ce que les libéraux ont dit... c'est presque cocasse, mais le premier ministre sortant, Philippe Couillard, a dit que des budgets en santé allaient être consacrés au personnel du réseau si son parti était réélu. Là, t'as envie de t'étouffer dans ta tôle ce matin parce que tu dis, ouais, c'est parce que...
On n'est pas capable de
recruter. T'avais comme 4 ans pour le faire, puis c'est pas ça qu'on a vu. Puis quand on dit personnel du réseau, est-ce que c'est encore les mêmes qui vont repasser au cash, là?
Le problème est là.
À la banque, je veux dire?
Oui,
pas passer
banque,
au cash
oui.
après.
Non, passer au guichet.
Passer au guichet, je veux dire, oui. Les médecins?
Oui. Les médecins, mais pour moi, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, ce sont les préposés aux bénéficiaires. Et on s'en est rendu compte, on a investi des sommes, on a voulu engager 1 300 préposés aux bénéficiaires et on n'a pas été capable de réussir à le faire. On est obligé de réduire les exigences, justement, dans certains cas. On a vu ce qui s'est passé à Québec. Il y a des projets pilotes qui se passent ailleurs. Présentement, là, le ministère de la Santé, c'est pas lui qui est capable vraiment d'engager. Ceux qui sont capables de former, ce sont le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires. C'est là où les efforts doivent être faits et on doit en avoir dans chacune des régions pour s'assurer que partout, on va avoir une départition. Et ça comprend les préposés, ça comprend les infirmières, ça comprend aussi les autres membres du personnel hospitalier.
Sur les 1 300 préposés aux bénéficiaires qu'on voulait engager, combien on a réussi à en engager finalement?
On n'a pas voulu nous le dire, mais moi, je dirais que c'est à peu près 1 000 qu'on a dû engager. Et là,
on a de la misère à en trouver parce que c'est pas payant.
Combien
ça gagne un préposé aux bénéficiaires? Il reste pas beaucoup, il y a un gros roulement.
Privé, c'est quasiment salaire minimum.
C'est ça, là. Ça peut
dans le réseau de la santé, c'est aux alentours de 17 à 22 $.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça que le privé, malheureusement, perd son personnel parce qu'effectivement, il est presque au salaire minimum, 12 piastres, 13 piastres. Et là, il préfère passer au public. Et même là, au public, il n'y a pas suffisamment de gens.
C'est difficile comme travail. Il faut le dire. C'est extrêmement difficile comme travail. C'est pas le fun forcément tous les jours. Là.
Non.
Il y a beaucoup de... Tu torches des gens aussi. Là.
J'ai beaucoup d'admiration.
Tu laves beaucoup. Tu laves des bols de toilette. Puis, tu sais, c'est pas évident. Là.
J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce genre de travail-là. Il faut qu'ils soient bien formés. La différence est là aussi. Et revalorisés. On a même vu, j'ai eu des études, moi, que j'ai vu que les médecins traitaient de façon très condescendante les infirmières et leur imposaient des choses. Bien, la même chose se passe vis-à-vis des infirmières, vis-à-vis des préposés aux bénéficiaires. Mmh. On pense qu'ils sont du cheap labor. C'est pas vrai. C'est les premiers contacts avec nos personnes âgées et c'est eux qui doivent être le mieux formés et les mieux traités, à mon point de vue.
Oui. Donc, cette proposition de la CAQ, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, encore du béton, du ciment, encore des stationnements, j'imagine qu'on va faire. Tu sais, je repense à l'exemple du CUSUM où c'est un hôpital, mais ce qu'on voit, c'est un gros stationnement, finalement.
Chaque fois qu'on passe dedans.
À 22 piastres, en plus.
Oui, en bouffe, oui. Mais il a coûté cher aussi, le CUSUM.
Il a coûté très cher.
Et puis, bon, en même temps, il faut ce qu'il faut. Mais si c'est ça que ça prend, d'accord. Mais j'ai l'impression que, pourquoi? Moi, je parle tous les jours, bon, régulièrement à des gens qui m'écrivent là-dessus, bon, puis qui me disent, moi, je suis aidant naturel, bon, j'aimerais ça qu'on m'aide. Pourquoi on dit pas plutôt, au lieu de créer encore des centres qu'on va construire, pourquoi on ne donne pas une partie de cet argent-là? Je suis sûr que ça coûterait moins cher que ces milliards. Tu dis, je suis sûr que dans les familles, il y a au moins une personne qui dit, ben moi, rester auprès de maman Alzheimer, je le ferais peut-être si on me donnait une compensation financière. Ça pourrait même être un salaire. Puis tu mets avec ça ben, une travailleuse sociale ou tu mets un préposé si on peut en trouver, une infirmière s'il y en a assez, mais avec des soins approprié plutôt que construire. Pourquoi on a toujours ce réflexe?
Mais encore là, c'est la solution unique. Hein? On a une solution pour tout le monde. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas de famille, dont la famille est négligente, et on le sait parce que la majorité des gens en CHSLD ne reçoivent jamais de visite, hein? C'est un fait. Mais on dit, OK, on a un pot d'argent, généralement ça arrive pas loin du milliard tout le temps, on va le mettre là. Mmh. Au lieu de développer des solutions plus adaptées, pas besoin d'en avoir 150, mais comme tu dis, les gens qui seraient des aidants naturels qui pourraient en faire plus, mais qui peuvent pas, parce que sinon ils se retrouvent à l'aide sociale. C'est ça la réalité, là. Ouais. Je veux dire, c'est ou bien tu travailles, ou tu es à l'aide sociale, si faut que tu t'occupes de maman ou papa. Qu'est-ce que tu fais?
Et des personnes handicapées, des personnes justement plus jeunes aussi dans certains cas. Moi, j'ai vu beaucoup de familles, de mères, être obligées de laisser leur enfant pour s'occuper de leur enfant autiste. Parce qu'à partir de 21 ans, il n'y avait plus de ressources pour pouvoir les avoir.
Ah ouais. Alors, ben, c'est encore comme ça, ça n'a pas dû changer.
Non, vous avez raison. Hein? Non. Et là, c'est là justement où vous amenez une bonne solution. Parce qu'il faut aider les aidants naturels. J'ai l'exemple d'une de vos collègues, Isabelle et Élise, qui est une journaliste et qui s'occupe de sa mère et qui demande juste un peu de répit, ne serait-ce qu'une journée par semaine, et elle n'est pas capable de l'avoir.
Ah non.
Elle n'est pas capable de l'avoir, donc sa mère est à la maison, elle doit se lever toutes les nuits et elle doit faire son travail comme vous le faites aujourd'hui. C'est terrible et c'est là où on a besoin de ce genre de service-là. Puis ça, ça ne coûte pas cher.
C'est sûr, ça coûte pas cher. Mais il n'y a pas de béton.
Mais comment ça se fait que, comment ça se fait que nous, on le sait, là? On est gros. Je pense qu'il y a des auditeurs qui doivent être d'accord avec ça aussi, puis qui auraient proposé ça. Comment ça se fait qu'aucun des partis... sincèrement, ce qui se rapproche le plus, c'est le Parti québécois, là, avec son demi-milliard de dollars en soins à domicile. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils veulent investir dans un gouvernement du Parti québécois. Mais même si, tu sais, en même temps, ils ont déjà eu l'occasion d'être au pouvoir.
Oui. Ben, c'est là où ils ont coupé les infirmières.
Bon. Mais là, on dit 500 millions dans les soins à domicile.
Ben, oui. Je pense que le
Parti... Vous y croyez pas, Pierre?
Oui, ça prend ça, 500 millions par année de nouvel investissement, si on veut pouvoir faire quelque chose. Mais pourquoi qu'on n'a pas été capable de le faire? Effectivement, c'est une promesse aussi du Parti libéral. Et présentement, on ne l'a pas mis en place. Le Parti libéral a fait quelques promesses semblables, effectivement, il y a quelques jours où on a parlé de soins à domicile.
Mais ils n'ont pas coupé les soins à domicile?
Le problème des soins à domicile, c'est on a coupé le nombre d'heures dans certains cas où les gens avaient droit. Le problème des soins à domicile aussi, c'est qu'il y a une toute petite fraction de la population.
Toute la saga de la débarbouillette à Barrette,
oui, oui,
là.
Oui, oui. Mais il y a 10% de la population qui prend à peu près 90% de tous les soins à domicile. Ah ouais. C'est ça la différence. Il faut qu'on augmente la proportion des services. Parce que justement, il faut faire une distinction là aussi. Est-ce que ce sont des soins? Des soins, c'est une infirmière, comme ce qu'ils font, ou des services? Services, c'est les bains, c'est les courses, c'est le nettoyage de la maison.
Oui.
Ça, souvent, c'est payé par la personne, en plus.
Oui, parce que, bon, tu disais tout à l'heure, le CHSLD, c'est centre hospitalier, mais en fait, c'est centre d'hébergement. Donc, c'est pas un hôpital.
C'est vraiment des soins. Mais il faut que tu sois malade pour aller là.
Ça prend 3 heures et demie. Une personne qui est admise là doit avoir 3 heures et demie de soins. De soins, pas de services, de soins par jour.
Ça, ça commence à être quelqu'un qui est malade.
Oui.
Hein? C'est pas un condo. C'est pas une résidence. C'est ça que j'essayais.
C'est pas la résidence soleil.
C'est pas un club med comme on veut nous le faire croire avec la nouvelle façon.
Non, c'est clair. On va s'arrêter ici. Le temps file. On va aller voir ce que pensent nos auditeurs de toute la situation des aînés au Québec. En particulier, on parle surtout de ces, on l'a dit tout à l'heure, 1 200 000 personnes âgées au Québec de plus de 65 ans. Mais c'est pas un bloc monolithique, tous malades. Puis heureusement, il y a l'espoir là-dedans. C'est qu'on peut. Puis je pense qu'on parle jamais assez quand on parle des aînés. Pourquoi on parle pas de prévention aussi? Là, faudrait évidemment prendre ça beaucoup plus tôt dans la vie. C'est la prévention en matière de soins de santé, puis de santé, puis d'hygiène de vie. Ça devrait commencer à l'école. Tu en parlais d'éducation hier, là. Ça devrait commencer à l'école.
Je l'ai marqué dans un mémoire, moi, pour la politique jeunesse.
Ouais, mais c'est là que ça devrait commencer pour que ta vie soit pour vivre en santé, c'est de la prévention. Ça, la prévention, on n'en parle jamais. On est dans une société de maladies, hein? Puis de médicaments. Mais dans le fond, on pourrait éviter aussi certaines maladies avec nos comportements si nos comportements étaient un petit peu plus santé. Mais bon, ça c'est un autre dossier visiblement.
Du long terme, on parle toujours de court terme en politique.
514-790-9850 pour nous joindre. Sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi, d'après vous, de quoi nos aînés ont-ils vraiment besoin? À tout de suite tout le monde. On se demande ce matin de quoi nos aînés ont-ils vraiment besoin. On se pose la question, bien sûr, et on a envie que les politiciens qui sont en campagne électorale en ce moment tendent l'oreille vers les solutions qu'on apporte, qui sont assez finalement, qui nous paraissent assez évidentes ce matin. Je veux dire, on en a fait beaucoup de discussions ici à cette émission au cours des derniers mois, des dernières années. C'est pas très compliqué non plus. On a qu'à, tu sais, il suffit de bien y réfléchir puis de voir ce que les gens disent. Le docteur Yves Lamontagne est l'ex-président du Collège des médecins du Québec et de l'Association des médecins psychiatres. Il est clairement au fait de ses besoins des aînés. Bonjour, docteur Lamontagne.
Oui, bonjour madame.
Si on vous pose la question, pour vous c'est assez clair, puis pas besoin de chercher des projets d'envergure compliqués là.
Non, je pense que vous savez ce qu'on a toujours oublié, c'est qu'on devrait donner d'abord et avant tout des soins et des services à domicile pour les personnes âgées et les garder dans leur secteur. On les arrache de leur place où ils ont vécu toute leur vie, puis on les place dans des espèces de parking, si vous voulez, avant de mourir. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a d'autres pays qui font ça, d'ailleurs, on n'invente rien. Là. Les gens restent intégrés dans leur milieu à ce moment-là. Ils ont une meilleure socialisation, mais évidemment, il faut avoir du personnel, et ça coûte de l'argent, mais je pense qu'au total, ça coûte...
Oui, mais construire des maisons, ça coûte de l'argent aussi, docteur Lamontagne.
Effectivement.
Je me demande si ça coûte pas plus cher.
Oui, je pense que oui, moi. Ouais. Il faut l'entretenir, la maison, puis bon, etc., etc., etc. Alors, moi, je pense que ce serait un meilleur moyen, et un moyen beaucoup plus efficace, en gardant les gens chez eux le plus longtemps possible et en ayant des services à domicile. Puis il y en a déjà toutes sortes de services à domicile. Je vais vous prendre un exemple fort simple. Les soins palliatifs à domicile, donnés par la Fondation des soins palliatifs à domicile de Montréal, ça coûte rien. Et pendant ce temps-là, les gens restent dans leur milieu, avec leur famille. Et c'est des éléments qui sont importants émotivement parlant. Alors, c'est un peu la même chose lorsqu'on parle des personnes âgées.
Oui. Est-ce qu'on va pouvoir un jour oublier le cauchemar de CHSLD, d'après vous, ou c'est une espèce de passage obligé pour ce 3 % de la population des personnes âgées qui y sont en ce moment?
Oui. Vous savez, on ne pourra pas éliminer ça complètement. Mm-hmm. Je pense qu'on pourrait, par contre, améliorer beaucoup le produit et surtout, comme je vous disais tantôt, faire en sorte que les gens restent chez eux. Je vous donne deux exemples.
Oui.
Quand j'étais en Angleterre, sur ma rue, il y avait une ancienne cantatrice qui souffrait d'un problème bipolaire. Et à un moment donné, quand elle partait sa phase maniaque, à 4 heures du matin, elle sortait sur son balcon et chantait de l'opéra, puis elle réveillait la rue au complet. Ben, en dedans d'une demi-heure, il y a quelqu'un qui avait appelé au service et il y a quelqu'un qui venait, une travailleuse sociale ou une infirmière, et soit qu'ils ajustaient sa médication qu'ils n'avaient pas prise pendant 2-3 jours, ou encore ils l'amenaient à l'hôpital pour 2-3 jours et ils la ramenaient à la maison après quand ça allait mieux. Et effectivement, on l'a rencontrée à nouveau au pub à 4 heures où elle venait prendre son thé. Alors, vous voyez, elle restait intégrée dans la société. Les gens la connaissaient sur la rue. On lui parlait. Alors ça, c'est important aussi.
Oui.
Une autre idée qu'une architecte qui était mon ancienne voisine me donnait, c'est qu'elle me disait on pourrait prendre des buildings dans les loyers à prix modique et faire en sorte que vous avez un loyer où c'est une personne âgée qui y demeure, et l'autre à côté, c'est une petite famille éclatée, si vous voulez. Donc, mettons une plus jeune femme avec des enfants, et les deux deviennent amis et ensemble.
Ouais.
Alors, la jeune peut aller faire les commissions pour la madame, qui, pendant ce temps-là, va garder ses enfants. Alors, vous voyez, on n'isole pas les gens de cette façon-là.
Oui, ça, vous avez déjà vu cet exemple-là, Dr Lamontagne?
Non.
Non, c'est ça. C'est ça que je pensais aussi. Ça, c'est dans nos vœux pieux. Ça, c'est d'une société. Ça serait un rêve d'une société hyper humaniste où chacun aiderait son prochain. Où ça? On connaît même pas nos voisins, les amis.
Aux États-Unis, on assiste à un retour des communes. Hein, pas avec le peace and love et tout ça. Il y a un endroit en Arizona où c'est un lieu.
Ouais.
Non, mais ça, c'est en expansion en Angleterre aussi, où les gens, au lieu d'aller vivre dans une résidence soleil, par exemple, décident ensemble soit d'habiter des petites maisons une à côté de l'autre ou de s'acheter un bloc ensemble et s'offrent des services les uns les autres. Ça
mais c'est marginal. C'est marginal. Ce sont des petites villes marginales.
J'aimerais bien mieux finir dans une maison comme ça avec mes chums, à me bercer le soir en écoutant du Led Zeppelin puis en fumant un joint légal que d'aller jouer aux poches au Résidence Soleil.
C'est clair. Mais pour le joint, t'as pas d'inquiétude, ça s'en vient.
Ça va être légal. Non,
ouais.
J'aime pas ça, le pote.
Ouais.
Tu vas.
Non, mais comprenez ce que je veux dire. Moi, je veux bien là, qu'on rêve. Là, les politiciens font ça en ce moment. On peut rêver, il n'y a pas de limite, mais après ça, il faut être réaliste. Il y a un côté où il faut regarder ce qu'on peut faire. Moi, je veux bien que tous les voisins s'entraident, puis que la plus jeune aide la plus vieille, puis qu'on fasse l'intergénérationnel de soins. Ça sera juste pas possible. Comme je vous dis, on est obligé de faire des fêtes de voisins là, pour que chacun amène ses sandwichs pour qu'on finisse par se tolérer. Là, évidemment, j'exagère légèrement, mais pas tant. Voyons donc.
Ben, il y a des groupes qui commencent
On est des sociétés de stool.
Ben, présentement, c'est qu'on est individuel. Donc, on veut.
Tu regardes ton voisin. Regardons, il a mis ça dans son recyclage. Je vais appeler, me plaindre à la ville. C'est comme ça que les gens sont pas là pour s'aider, voir si tu vas aller changer la couche de ta voisine.
C'est plate, mais c'est pas quelque chose qu'on observe dans les communautés anglophones. Où la communauté est très importante. Toute la question de la... Pourquoi à l'école, par exemple, ça fonctionne mieux?
Ouais.
Parce que les gens sont plus impliqués dans leur communauté. Nous, on dit qu'on est collectiviste, mais dans le fond, je nous trouve tellement plus individualiste.
Tellement, on est collectiviste chacun chez soi.
Oui, c'est ça. Tout va bien.
On a eu traditionnellement le banc du quêteux, mais on espérait qu'il n'y ait personne qui vienne s'asseoir.
Je pense qu'il faut faire attention, il faut pas être négatif à ce point-là.
Je suis pas négatif, docteur Lamontagne, je suis réaliste.
Je pense qu'on s'améliore, si vous voulez, sur le collectivisme. C'est vrai qu'on est très, très individualiste, comparativement aux anglophones, par exemple, pour une raison fort simple, c'est qu'on l'a pas appris, premièrement. Deuxièmement, on n'avait pas d'argent pour le faire.
Mais voulez-vous que je vous lise des courriels que je reçois là, depuis une semaine qu'on discute et qu'on débat un peu de toutes les propositions politique et sociale, puis des gens qui me disent encore ce matin, « Hey, moi, là, pourquoi je paierais pour les familles? Je suis toute seule, puis on est 45% de la population à vivre seule. Pourquoi il y en a tout le temps pour la classe moyenne puis les familles? » D'une certaine façon, c'est pas faux. Les gens qui disent, « Hey, moi, je suis en santé. Pourquoi je paierais pour tous ces malades? Et moi, je suis jeune. Pourquoi je paierais pour les vieux? Et moi, je suis vieille. Pourquoi je paierais pour les jeunes? » Comprenez-vous? On est assez comme ça. Bon, on va parler à Jean, voir s'il est d'accord avec tout ce qu'on dit. Bonjour, Jean.
Oui et non. Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. De quoi nos aînés ont-ils vraiment besoin, Jean?
Écoutez, moi j'ai deux commentaires à faire là-dessus.
Oui.
J'écoutais le docteur Lamontagne, des soins à domicile, oui, mais moi j'ai passé par là avec ma famille, et puis c'est pas pour tout le monde. Écoutez, moi dans les CHSLD, là on en parle négativement à tout le monde.
Mm-hmm.
Ça va mal. Écoutez, pourquoi qu'on ne revient pas ça de bord, puis qu'on dise à un moment donné, mais c'est agréable d'aller dans un CHSLD. Premièrement, les personnes qui travaillent là, Moi, là, j'ajouterais du staff, du monde, ouais. OK, pour travailler là, puis avec une bonne augmentation de salaire, parce que c'est très important ce qu'ils font, puis moi, je le ferais même pas dans ma vie.
Exact.
OK. Alors, moi, je commencerai avec ça. Puis, c'est parce que ces gens-là, là, moi, j'ai vu ma mère, là, puis elle me le disait des fois, maudit qu'elle a une méchante humeur. Maudit qu'elle a une méchante humeur. Elle me pousse à part de ça, tu sais. Mais, dans le fond, je blâme pas peut-être la fille parce que elle était stressée, ben elle raide, était overworked. Excuse-moi l'expression.
Ouais, ouais, complètement débordée.
Alors, ouais, ouais. Faut régler ça en partant. Puis deuxièmement, moi j'ai vécu d'un pays danois à Copenhagen. Puis savez-vous quoi? Il y a des cours au primaire, au secondaire, au collégial.
Ouais.
OK, un cours dont tu reçois des crédits pour faire du bénévolat. Vous savez, quand vous êtes jeune, là, puis on vous éduque à faire du bénévolat quand on est jeune, ça reste dans nos racines.
Ouais. Vous savez que dans certaines écoles privées du Québec, il y a ça aussi. Je ne sais pas trop au public. Il y a certaines écoles publiques aussi qui encouragent
oui,
ça. Mais c'est pas obligatoire.
Et dans certaines écoles privées, ça l'est. J'ai commencé à 7 ans, moi, à faire du bénévolat.
Tout à fait. Oh, ouais, tout à fait. Il faut le faire. C'est effectivement. Mais vous avez raison, Jean, de dire, il faut qu'on le dise. Ça peut être agréable d'aller au CHSLD. Pourquoi on le dit pas assez? Parce que ça l'est pas beaucoup agréable jusqu'à maintenant. Mais oui, et peut-être exact. Qu'on peut le. Votre idée, d'ailleurs, qu'on suggérait avec mes invités d'entrée de jeu est très bonne. De dire on va augmenter le salaire des préposés bénéficiaires. Si je ne me trompe pas, Pierre Blanc, il n'y a pas si longtemps, il était en négociation, il disait améliorer nos conditions de travail.
Oui.
Personne n'écoutait.
C'est ça. Moi, comme représentant des usagers, je l'ai toujours dit, le personnel doit être bien rémunéré parce qu'autrement, on n'aura pas les services qu'on mérite.
Au moins à 20$ de l'heure, je suis sûr qu'il y aurait plus que je ne pense pas que tu sois obligé d'embarrer le monde pour qu'il travaille.
Probablement moins, mais aussi bien formés.
Mais il faut les former. Et ça, c'est le ministère de l'Éducation, c'est les commissions scolaires qui doivent mettre les programmes. Le problème, c'est qu'on contingente ces places-là, puis on va pas les chercher en leur disant c'est terrible de la façon que ça se fait.
Moi, qui a envie d'aller travailler là-dedans? Hein?
Ben, si tu payes des gens comme il faut,
oui,
il y en a des
là,
gens
ouais,
qui ont vraiment envie de prendre
personne.
Soin.
Mais ce qu'on entend souvent, là, c'est les chialeux là, qui disent « Nous autres, on trouve qu'ils en travaillent trop ». Ben là, non. Si on est capable d'avoir des gens qui vont pouvoir avoir des emplois corrects et qui vont être bien formés et surtout avec un nombre suffisant, ben là, ils vont pouvoir y aller parce que justement, ils n'auront pas l'impression d'en faire trop.
Non, tout à fait. On va s'arrêter ici. Docteur Lamontagne, vous restez avec nous encore quelques minutes. Pierre Blanc, Lise Ravary sont avec nous également. On prend vos commentaires après la pause. 514-790-9850. On s'intéresse au sort de nos aînés. On se demande de quoi ont-ils vraiment besoin. À tout de suite. Nazaire, un auditeur, est avec nous. De quoi nos aînés ont-ils vraiment besoin, d'après vous, Nazaire?
Madame Maréchal, bonjour et bonjour à tous les invités. La chose la plus importante que nos aînés ont besoin, c'est que nous autres, nous puissions penser à nous, parce que demain, ça va être nous à leur place. Mm-hmm. Si nous nous posons cette question, est-ce que nous serons contents d'être dans cette situation? Déjà, on va commencer à trouver des solutions. Et deuxième chose, il faut commencer à au moins comparer nos aînés avec nos pitbulls. Parce que j'ai vu la haine qui se développe quand on doit défendre des animaux. J'ai pas de problème avec les animaux. Mais si au moins on pouvait faire pareil pour les aînés, on va trouver des solutions.
Merci, Nazaire.
Amour merci. Et respect.
Ouais, merci, tout à fait. Raymonde, votre opinion sur la situation des aînés au Québec, de quoi ont-ils besoin?
Moi, mon opinion, c'est que présentement, la plus grande injustice au Québec, c'est justement le sort qu'on réserve aux personnes qui sont nées dans les décennies 1900 jusqu'à 1930. Parce que ces personnes n'avaient même pas l'occasion de pouvoir mettre un petit 5$ par mois de côté pour leur vieux jour. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on donne beaucoup aux jeunes. Je suis pas d'accord, je ne peux pas dire qu'on ne devrait pas en donner. Mais si tout va vers là et on oublie ces personnes qui ont tellement contribué, qu'ils ont fait des familles de 10, 11 enfants, qui ont payé des impôts toute leur vie. Et puis maintenant, qu'est-ce qui arrive quand nos parents vivent encore? Moi, j'ai une mère qui a 99.
Ouais.
Nous sommes dans l'âge de presque 80, c'est les enfants. Ouais. Alors, on a dû un an passé la mettre en résidence parce que là, on a des conjoints, on va passer des jours à l'hôpital où c'est l'autre personne qui est là, alors on pouvait plus tout faire. Et nous sommes là à tous les jours. Et je vois vraiment ce qui se passe. Et je vais vous dire, le problème, le plus gros problème d'abord, c'est que beaucoup de familles ne vont pas voir leurs enfants, mm-hmm. leurs parents, c'est-à-dire le deuxième problème, c'est que le salaire devrait être minimum 20 $ de l'heure.
Ouais.
Vous savez, madame, qu'en Ontario, le début de salaire des préposés, ceux qui débutent, c'est 32 000. Mm-hmm. En milieu de carrière, c'est 46 166.
Ouais.
Et à la fin, c'est 65 000. En plus, vous savez qu'au Canada, les travailleurs dans les zoos, salaire de départ, 41 000.
Mm-hmm.
Salaire moyen, 58 338. Et salaire en fin de carrière, 82 000. Que pensez-vous de ça?
Mm-hmm. Tout à fait. Lise, qui connaît bien la situation en Ontario, tu es d'accord avec ce que dit
ben,
Raymond?
En tout cas, ça ressemble aux chiffres, moi, que
ouais, qu'on connaît.
Parce que j'ai déjà fait une petite tournée de certains centres, d'ailleurs, où, par exemple, les bains en Ontario, si ma mémoire est bonne, la loi impose un certain nombre de bains par semaine. La loi.
Ouais.
C'est pas juste si ça nous tente ou ça nous tente pas. C'est la loi. Je pense que c'est deux bains semaine.
Oui.
Et c'est dans un texte, en fait, dans la réglementation de la loi. C'est loin pour nous là, de penser à ça.
C'est pas du luxe, là, deux bains par semaine.
Bon, évidemment, il y a des personnes âgées qui en veulent pas.
Ouais,
ça,
mais
c'est vrai.
Si la personne n'en veut pas,
ça,
OK.
Mais ça reste pour les autres.
Ben, exactement, exactement.
Docteur Lamontagne, voulez-vous rajouter quelque chose à ce que Raymond nous disait?
Bien sûr, bien sûr. Écoutez, avec ce que vient de dire la dame et l'autre monsieur avant, je pense que le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup plus de préposés aux malades dans les CHSLD, parce que ces pauvres gens, ils en ont par-dessus la tête. Il faut bien les payer, oui, mais je pense qu'on a peut-être moins besoin d'infirmières et plutôt avoir, par exemple, une infirmière praticienne spécialisée en gériatrie.
Bien, il en manque beaucoup, par exemple, de ça. On a de la misère
oui,
à en former.
Mais il en forme quand même au moins une centaine par année, là. Donc, ça s'en vient et ça va venir de plus en plus. Et à ce moment-là, elle peut...
Ça prend 4 ans à en former une, par exemple. C'est long, là, c'est ça.
Oui.
On n'a pas besoin de 2005.
Mais, il y en a déjà qui sortent, là. Alors, il faut au moins, on peut se dire qu'il y en a une centaine qui sortent par année. Mais il faut avoir une vision un peu en avant. Alors, donc, ces infirmières-là pourraient donner un excellent service et il y aurait peut-être moins besoin d'avoir un médecin sur place. D'ailleurs, ils ne veulent pas y aller beaucoup. Et on prendrait tout cet argent-là pour davantage bonifier l'emploi des préposés. Alors, je pense que c'est le nœud, puis il y en a d'autres qui l'ont dit, là, le nœud de l'affaire, c'est ça. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée pour faire ça. Et vous savez, quelqu'un qui l'a dit tantôt, pour faire ça, là, il faut vraiment avoir un âme de missionnaire.
Ouais, tout à fait. J'ai quelqu'un qui m'écrit, là. Tout à fait, vous avez raison. Il y a des gens qui veulent le faire. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'écrit, là, qui me dit, ma copine qui a pas son secondaire 5 a voulu être, s'est présentée pour être préposée bénéficiaire. Elle s'est fait refuser son admission. Elle avait pas son secondaire 5. Elle avait pas son diplôme d'études secondaires. Il dit aussi le salaire dans le privé pour ceux qui ont pas de diplôme, c'est aux alentours de 12 $ de l'heure. Ben, c'est le salaire minimum, en fait. Versus 18 pour ceux qui l'ont. Alors, pour le même travail. Donc, il y a une certaine discrimination qui décourage les gens.
Oui.
Tu sais, s'il y a quelqu'un qui se présente, qui dit, moi, j'aimerais être préposé aux bénéficiaires.
Il y a des programmes spéciaux.
T'en fous s'il n'y a pas son secondaire 5, mais tu peux peut-être faire effectivement une formation appropriée.
Exactement.
Au besoin du type de soins de CHSLD.
Ça existe pour des gens qui rentrent à l'université, d'ailleurs, qui ont un programme spécial qui leur permet de finir ce cours-là, et ensuite de ça, ils peuvent le faire. Donc, il n'y a aucune raison que cette personne-là ne puisse pas y aller.
Puis de ne pas les payer le même salaire, ça n'a aucun sens.
Ben non.
C'est le même travail.
Et surtout, c'est souvent des femmes, donc la discrimination encore.
Ouais. C'est comme par hasard.
Ouais. On a Yannick avec nous. Bonjour, Yannick.
Bonjour, Mme Maréchal.
On vous écoute.
Alors, moi, je vais vous dire sincèrement, je suis un petit peu déçu du paquet de promesses qu'on reçoit des libéraux, surtout en période électorale actuellement. Puis la question que j'aurais à poser, puis c'est une réflexion en soi, c'est juste une observation. Puis en passant, je n'ai rien contre les gens qui travaillent à la SAQ, là. C'est sûr qu'il manque pas de bouteilles et de tablettes. Il y a assez d'employés pour s'assurer que tout soit correct puis tout ça. Moi, je pense que c'est un manque de respect total et flagrant de nos gouvernements pour nos aînés.
Ouais.
Tu sais, de ne pas, comment qu'on paye un employé de la SAC versus un préposé aux bénéficiaires? Sincèrement, c'est une question qu'il faut se regarder droit dans les yeux puis qu'il faut se poser. Puis ça part directement de la volonté des gouvernements. Puis je pense que c'est un non-respect. J'espère que les gens vont s'en souvenir aux prochaines élections. Moi, j'étais libéraux. Je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Parce que me faire remplir de promesses comme ça, je vais vous dire très sincèrement, je suis un petit peu déçu.
Puis vous allez vers quoi, là?
Ben, je vais vous parler que mon vote se dirige tranquillement. C'est pas Mme Bourdon qui m'impressionne pour le moment, mais je vais regarder les débats, puis on va prendre notre décision par après. Mais...
Vous êtes un indécis, comme beaucoup de monde, là. Les sondages sortent aujourd'hui, là, puis il y a beaucoup d'indécis.
Ce que je veux dire, c'est que... Puis il y a une madame tout à l'heure qui a téléphoné, qui avait un point qui était fort intéressant. Tu comparais les salaires de l'État, mais avec les autres provinces. Mais tu sais, je veux dire, ça part d'une chose, ça part d'un gouvernement qui ouvre, qui débloque des fonds pour pouvoir mettre en place des choses semblables. C'est de dire qu'on n'a pas assez de main-d'œuvre. C'est simple, c'est l'offre et la demande. L'employé qui gagne 13, 14, 15 piastres d'heure, il n'ira pas travailler d'un endroit comme ça. Fait qu'à un certain moment donné, ça devient
complètement,
simple.
Complètement. Puis votre analogie que la SAQ est intéressante parce que je sais pas si vous avez vu, c'est en fin de semaine, il y avait une annonce dans le journal pour trouver des travailleurs pour la nouvelle société du pot, là. Mm-hmm. Société québécoise du cannabis.
À 14.
Puis sincèrement, c'est intéressant d'aller travailler là. Je pense que ça part à 17 piastres de l'heure. Je l'annonce mon bureau là.
Moi je n'avais vu à 14.
C'est 17 dollars de l'heure. C'est bon.
Ben, vous voyez, en partant, entre vous et moi...
Et ils ont une formation, Il faut ils vont avoir une formation. Pourquoi on n'a pas ça?
Puis encore une fois, j'enlève rien aux gens qui travaillent à la SAQ. Là. C'est un choix de travailler là. Mais tu sais, j'aurais le choix de travailler à 25$ de l'heure dans une SAQ. Je ne sais pas si c'est 25, d'après moi, c'est plus que 20$ de l'heure. Ou de travailler dans un
CHSLD.
CHSLD, pardon. Avec un salaire qui est ridicule, des heures qui... Et des horaires qui... Tu sais, je veux dire, les gens sont surmenés.
Puis il y a l'ambiance aussi, tu sais, les gens, il y a toute l'ambiance, exactement. Le milieu de travail. Merci beaucoup, Yannick, de votre intervention. Docteur Lamontagne, je vais vous laisser aller. Un petit mot en terminant avant la pause.
Oui, bien, je vous dirais, c'est en fonction de ce que monsieur vient de dire. C'est un problème de société. Ouais. Hein? Et quand il parle des gens de la SAQ, évidemment, on pourrait remonter jusqu'aux joueurs de hockey là, qui font des millions alors qu'ils font pas grand-chose d'abord de ça.
Oui, mais ça, c'est du privé, là. À la rigueur, là, que la famille Molson ait un plafond salarial de X puis qui donne des millions à des joueurs qui scorent pas. Bon, nous, on est là, on paye des billets pour aller voir des gars qui sont moyens bons, mais ça, à la rigueur, c'est un autre problème. Là, c'est de l'argent public. Moi, quand on me dit on va mettre un milliard d'argent public dans quelque chose qui est peut-être pas la solution, je suis pas sûr que c'est ça, là, le problème.
Oui, c'est sûr, mais comme je vous dis, c'est un problème de société qu'on a. Hein, où l'argent va aux mauvaises places. Alors, puis quand on parle des joueurs de hockey, c'est qui paye au fond? C'est le consommateur. Alors, il pourrait prendre cet argent-là puis la mettre ailleurs. Alors, je pense qu'il faut regarder l'ensemble du problème de société et peut-être distribuer la richesse de façon différente que de la façon qu'elle est faite là.
Merci.
Et surtout, bien évidemment, de penser aux plus démunis. Puis essayer de les aider le plus possible.
Merci beaucoup, docteur Lamontagne. On doit s'arrêter ici. On revient tout de suite après. Bonjour, Carole. Quand vous écoutez tout ce qu'on dit ce matin, là, est-ce que pour vous, c'est clair ce dont nos aînés ont besoin?
Ben, moi, c'est très clair. J'ai aidé ma belle-mère pendant plusieurs années qui a été placée en résidence. Et je peux vous affirmer dans un CHLLD, là, comme vous dites.
Oui, CHSLD, oui.
Exactement. Et je peux vous dire qu'il manque flagrant. Il faut valoriser le personnel par une augmentation de salaire. Il faut augmenter les gens pour les aider. J'ai rencontré des bénéficiaires et des gens pour les aider, là. Des gens super dévoués. Mais quand vous avez 20 patients et que faut que vous changiez les couches de ces 20 patients-là après le dîner. Mmh. Est-ce qu'on peut demander à ces gens-là d'avoir de la patience, de la tolérance? Si on en avait une par trois ou quatre résidents qui pouvaient établir un contact avec ces gens-là, parce qu'il y a des gens formidables qui restent dans ces places-là, je comprends pas. Demandez l'aide des gens qui aident leurs parents. On va vous le dire. Moi, là, pour aller dîner avec ma belle-mère, ils plaçaient les gens qui ne pouvaient pas manger sur une table en U et chacun avait le droit à une bouchée de soupe, deux bouchées de viande et de patates, puis une bouchée de dessert. Alors, ces gens-là, demandez-vous pas pourquoi ils maigrissent, parce qu'ils n'ont pas le temps. Personne n'a le temps de les nourrir comme il faut et personne n'a le temps de les changer comme il faut. c'est ça qu'il faut.
C'est l'antichambre de la mort. On s'en parlait avec Pierre Blain. Vous me disiez que les gens qui vont en CHSLD, à partir du jour 1 où tu rentres là-dedans, tu sors genre en moyenne 16 mois plus tard.
Oui, votre poids descend de la moitié.
Ah ouais,
vous n'avez plus de plaisir à manger. Moi, ma belle-mère portait des lunettes. Ben, ils les ont jamais mis. C'est moi qui les mettais quand j'arrivais parce qu'il n'y avait pas le temps de mettre les lunettes. C'est pour vous dire un besoin. Moi, ma belle-mère, ça veut dire que pas de lunettes, elle ne voyait pas grand-chose.
Ben, voilà.
Fait qu'on la condamne, on la plaçait devant sa télévision et elle restait là.
Elle ne voyait pas.
Elle ne voyait pas. Alors, c'est un peu pas de la pitié, c'est du respect pour ces personnes-là. J'ai rencontré, comme je vous dis, des personnes âgées. J'ai pris le temps de jaser avec eux autres. C'est agréable, mais pas présentement. C'est ça qu'il faut changer.
Merci beaucoup, Carole. Merci bien. C'est très touchant, le témoignage de Carole.
Gilles Latulippe disait exactement la même chose parce que lui aussi, sa belle-mère était dans un CHSLD. Il y allait, il parlait aux gens et ça faisait tellement de bien à tout le monde.
Ouais. Mais c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème.
Parce que là, on est encore en train de promettre des affaires qui sont erronées. Bon.
Sauf qu'il y a peut-être une petite lueur d'espoir. Il y a dans le CIUS du nord de l'île où on a commencé une formation particulière pour que les préposés aient la bientraitance pour qu'ils puissent correctement interagir avec les gens. Donc, ça aussi, c'est quelque chose vers lequel on doit se diriger. Donc,
t'es-tu obligé d'avoir un cours sérieux là,
pour te dire d'une dame qui a
perdu la vue, qui a une vue faible, faut y mettre ses lunettes quand tu la mets devant la TV. On a-tu vraiment besoin de former du monde pour ça?
Non, mais peut-être la façon... Oui et non, vous avez raison. La différence, c'est qu'il faut qu'on puisse...
Quel genre de gens sommes-nous devenus?
C'est vrai. On est une société d'égoïstes et on apprend. Il faut apprendre aux gens comment traiter les autres personnes.
Aïe. Lise?
Et j'ajouterais... quand j'entends l'expression préposé aux bénéficiaires, je revire sur le
top. Jamais donc service aux clients.
Bon, est-ce que on pourrait peut-être parler de préposé aux personnes?
Ouais.
Un peu de respect, même. Ça a l'air fou, là, c'est un détail, c'est dans le langage.
Non,
c'est pas un détail. Et l'autre chose aussi qu'on va voir, et ça s'en vient, une des choses dont les personnes âgées vont avoir de plus en plus besoin, c'est de l'argent. Parce que on sait qu'au Québec, c'est quoi? La moitié des Québécois n'ont pas de plan de retraite.
Non, c'est ça.
Alors, quand tu prends la pension de vieillesse plus le revenu garanti, c'est des petits montants.
Ouais.
Alors, ces gens-là sont condamnés à des situations invivables parce qu'ils n'ont pas le choix de se payer mieux.
Oui, tout à fait. Mais tu sais, Marie est avec nous. Marie, est-ce que vous pouvez nous résumer votre pensée en 30 secondes? On termine.
Je suis tellement contente de pouvoir dire un mot. J'ai 60 ans, j'ai été proche aidante pratiquement toute ma vie auprès de mes parents, de mon conjoint pendant 30 ans. Là, comment pensez-vous que je vis? Je vis sur l'aide sociale, mais vous ne me croirez pas, je voulais avoir la ligne pour vous dire ça. Je demande au centre local d'emploi de me soutenir avec un gros 200$ pour la formation complète à la commission de scolaire Marie-Victorin.
Ouais.
On ne veut pas. Moi, je veux faire ça parce que j'ai 60 ans, je sais ce dont ont besoin ces gens-là, je les aime. Et comme disait Mme Lise, moi, j'ai été proche aidante. Oui, je vais aller chercher des informations, mais pensez-vous que j'ai pas déjà une formation personnelle auprès de mes parents, mon conjoint, mais c'est quand même, ça englobe quand
mais
même.
Vous seriez prêt à travailler dans un CHSLD, mais on ne veut pas.
Parce qu'on dit, ben, j'ai étudié, j'ai des études à travers tout ça. J'ai trop un gros CV. Je m'en fous du CV. Ouais. Je veux être utile. On veut être... Moi, là, présentement, il me paye à rester chez moi un gros 700$. Mais je veux travailler. On met des bâtons dans les roues. Ouais. Écoutez,
c'est ça qui est ridicule. Merci, Marie. On va devoir se quitter. Il nous reste 30 secondes. Assez pour remercier mes invités. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses ce matin. Des choses extrêmement pertinentes de la part de nos auditeurs qui nous donnaient des exemples concrets. Vous également, Pierre Blain. Merci beaucoup, Lise Ravary. Merci d'avoir été là. Je pense qu'il faut talonner ceux qui se présentent et ceux qui disent aussi. Il faut les reprendre quand ils disent n'importe quoi.
Et il faut aller voter, justement, pour avoir ce qu'on veut.
On a encore 3 semaines pour nos personnes aînées. Merci beaucoup à tous les deux. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On va parler de course d'accélération pour les nouvelles. Et surtout, je vous rappelle, je reçois mon amie, la comédienne Joanne Fontaine, tout à l'heure.